Bonjour Émilie.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, vous?
Oui, merci.
Émilie Robitaille, infirmière, candidate à la maîtrise en sciences, infirmière, consultante pour le défi sportif Altergo. Émilie, ça fait 5 ans que vous travaillez auprès des familles d'enfants autistes en tant qu'infirmière. D'ailleurs, vous avez décidé de baser votre maîtrise sur la normalisation de la sexualité des personnes autistes. Je pense que le tabou auquel vous êtes le plus souvent confronté, c'est 1, les personnes autistes ont une sexualité.
Effectivement, d'abord, si on aborde le sujet de la sexualité des personnes autistes aujourd'hui, c'est qu'il y a encore certaines personnes qui considèrent d'emblée que les personnes qui ont des limitations fonctionnelles n'ont pas de sexualité.
Mm-hmm.
Cette croyance est probablement fondée sur les critères de performance qui sont souvent associés à la sexualité dans les médias. Puis pourtant, pour une majorité d'entre nous, la sexualité se vit dans le plaisir et les émotions.
Oui.
Donc, si on veut favoriser une éducation à la sexualité pour les personnes autistes, à mon avis, il faut d'abord changer de paradigme et aller vers une normalisation de la sexualité pour les personnes autistes. Puis ensuite, pour créer des programmes d'éducation à la sexualité qui vont être adaptés aux besoins des personnes autistes, il faut recueillir directement auprès d'eux leur expérience quant à la sexualité.
Mm-hmm. Ça signifie quoi pour les gens qui nous écoutent, Émilie, la normalisation de la sexualité?
Dans le fond, la normalisation, c'est de considérer que la clientèle autiste a une sexualité.
Oui.
Puisqu'on a le phénomène dans la société qui s'appelle le phénomène d'asexualisation des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, c'est comme j'expliquais plus tôt que certaines... Il y a des croyances que les personnes qui ont des limitations fonctionnelles n'ont pas de sexualité.
Mm-hmm, mm-hmm. Bon, maintenant, est-ce que la sexualité des enfants, des adolescents autistes, elle peut s'exprimer de façon différente qu'une personne neurotypique, par exemple?
Effectivement, parfois, la sexualité des personnes autistes va s'exprimer différemment, soit, disons, maladroitement ou de manière inappropriée. Donc, les personnes autistes vont rencontrer des limitations sociales ou émotionnelles qui vont se traduire par la difficulté d'établir des relations sociales et une confusion en lien avec les normes sociales.
Mm-hmm.
Donc, par exemple, si on parle, dans le fond, il se peut qu'une personne autiste voulant exprimer qu'elle trouve le chandail beau de son amie va s'approcher d'elle et lui toucher le chandail au niveau de la région des seins simplement pour ressentir la texture du chandail. Mais au niveau des normes sociales, c'est mal vu, évidemment.
Oui. Mais en même temps, et vous me corrigez si je me trompe, j'ai l'impression que leurs besoins sont plutôt semblables et sont les mêmes là, que n'importe qui dans la société.
Effectivement, il y a plusieurs écrits qui avancent que la sexualité des personnes autistes est similaire à la sexualité des personnes autistes,
mm-hmm.
Des personnes neurotypiques. Donc, si on prend des exemples tirés des écrits scientifiques, certains auteurs comme De Winter et Associés disent que 82% des personnes autistes vont avoir dit être déjà tombées en amour, contrairement à 85,6% des personnes neurotypiques. Donc, c'est très similaire comme statistique. Ensuite, si on parle, il y a 70% des participants dans l'étude en question qui disent avoir déjà fréquenté une autre personne, tandis que pour les personnes neurotypiques, la prévalence se situe à 73,3%.
Mm-hmm. Donc, on se rend compte qu'ils ont aussi ce besoin d'être en contact avec les autres, d'être en amour et de vivre une relation intime.
Exactement. Au niveau des comportements sexuels, chez la clientèle autiste, une inquiétude plus grande pour les parents, c'est tout ce qui est en lien avec la sexualité solitaire, donc les comportements de masturbation, puisqu'ils vont être très fréquents auprès des personnes autistes.
Okay.
Et parfois, ça va être fait dans des lieux publics, et donc c'est important de leur apprendre les lieux qui sont appropriés pour la masturbation
Justement, parlons-en de l'inquiétude des parents d'ados ou d'enfants autistes, Émilie, parce que vous en connaissez beaucoup, vous travaillez avec ces familles-là. Quelles questions sont récurrentes? Qu'est-ce que vous entendez auprès de ces familles-là?
Souvent, il va y avoir des difficultés au niveau social. Donc, la clientèle autiste va être désavantagée socialement. Donc, comment on peut aider notre enfant à entrer en relation adéquatement avec les autres personnes? Évidemment, étant donné qu'il y a un peu moins d'éducation sexuelle faite auprès de cette clientèle-là, il va y avoir moins d'opportunités sociales d'apprentissage. Donc, ils vont moins avoir la possibilité de regarder ce que leurs pères font. D'autres questions, ça peut être en lien avec une caractéristique qui est souvent associée à l'autisme, qui est l'hypo ou l'hypersensibilité. Ça va créer souvent des désagréments au niveau de la sexualité. Les personnes autistes vont trouver désagréables certains comportements sexuels.
Je le disais tout à l'heure en introduction, Émilie, pour un parent d'adolescent, c'est pas toujours aisé d'aborder des notions de sexualité avec notre enfant. Il y a la gêne, il y a l'éducation que l'on a reçue, des craintes que l'on a également en tant que parent. Avez-vous l'impression que les parents, les familles d'enfants autistes ont encore peut-être plus d'obstacles devant eux pour aborder ces questions-là avec leur enfant?
En effet, je crois que d'aborder la sexualité avec son enfant, ça peut être pour certaines personnes malaisant. Mais pour les parents d'enfants autistes, ce qui est difficile, c'est aussi d'aller chercher des ressources. Oui. Donc, à qui on s'adresse pour avoir les ressources pour aborder le sujet de la sexualité avec notre enfant? Donc, ce que je peux conseiller souvent auprès, dans le fond, il y a plusieurs professionnels de la santé qui gravitent autour de l'enfant autiste. Donc, les personnes qui peuvent être outillées à aider les parents, ça peut être soit l'éducateur spécialisé, une infirmière, un psychologue ou une sexologue.
Et vous conseillez quoi aux parents qui nous écoutent pour amorcer cette discussion-là avec son enfant autiste?
D'abord, la sexualité, ça commence en jeune âge. Donc, les parents peuvent profiter de l'heure du bain pour apprendre les différentes parties du corps à leur enfant, puis travailler la différenciation sexuelle, donc les caractéristiques spécifiques des garçons et des filles. Ensuite, on peut aborder la notion, plus l'enfant vieillit, on peut aborder la notion d'intimité, donc « mon corps m'appartient ». Et ensuite, on peut regarder la notion de reproduction. Lorsque l'enfant devient plus autonome, les parents peuvent aborder la notion d'hygiène, les conventions sociales, donner un aperçu des différentes orientations sexuelles. Plus que l'enfant va s'approcher de la puberté, les sujets comme les changements hormonaux et les changements physiques qui vont accompagner la puberté et la contraception doivent être discutées.
Le consentement aussi, j'imagine.
Effectivement, le consentement. Donc, être en mesure de dire oui ou de dire non, de faire des choix en rapport avec sa sexualité. Plus particulièrement avec la clientèle autiste, c'est important de discuter au niveau relationnel et émotionnel. Donc, de quelle manière ils doivent entrer en contact avec les autres, comme j'ai mentionné plus tôt, puis comment ils peuvent parler de leurs émotions.
Oui. Si notre enfant, notre adolescent a justement des difficultés à entrer en relation ou de la difficulté à saisir certains codes sociaux, comment on peut l'aiguiller ou l'encadrer en ce sens?
Ça commence en jeune âge. Je pense que quand on va dans des lieux publics, puis notre enfant peut être intéressé à aller discuter avec un autre enfant, c'est de l'accompagner à une certaine distance, puis de peut-être l'aider, puis de lui indiquer la bonne manière de se présenter d'abord et ensuite d'introduire un sujet là, qui va sembler intéressant pour l'autre personne.
Donc, de maximiser les relations sociales, les interactions sociales dès le plus jeune âge.
Exactement.
Et aussi, de semer peut-être, et c'est peut-être une difficulté auquel vous êtes confrontée, Émilie, auprès de ces parents qui veulent surprotéger leur enfant a un handicap, évolue avec parfois certains obstacles depuis quelques années, et là, il arrive à cet âge de grande transformation, et bien, la surprotection, peut-être ça fonctionne un peu moins à ce moment-là de la vie.
Effectivement, il y a certains parents qui vont avoir des craintes d'aborder le sujet de la sexualité avec leur enfant. Donc, c'est pas parce qu'on aborde la sexualité que ça va nécessairement encourager des comportements
ouais.
sexuels. Au contraire, à mon avis, je crois que d'en discuter, ça va favoriser l'épanouissement de son enfant dans le développement de sa sexualité.
Oui. On associe parfois la prévalence de l'homosexualité avec la clientèle autiste, avec les personnes autistes. Est-ce qu'il y a réellement un lien à faire, Émilie?
Il y a plusieurs études qui révèlent une prévalence plus importante d'homosexualité dans la clientèle autistique. Mais au-delà des hypothèses qui sont mises de l'avant, il faut s'arrêter et faire en sorte que notre discours ne soit pas teinté d'hétéronormativité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut considérer les différentes orientations sexuelles. De cette manière, on va favoriser un bien-être sexuel et l'épanouissement de notre enfant.
Oui. Ça aussi, c'est en lien avec la normalisation de la sexualité, à quelque part.
Effectivement, c'est relié... Si on dit que la sexualité est tabou chez la clientèle autiste, on
ouais.
parle aussi encore aujourd'hui des tabous qui sont reliés à l'orientation
ouais.
sexuelle.
Et pour vous, Émilie Robitaille, c'est l'objectif de favoriser ou du moins de générer des ressources pour ces familles-là. C'est un petit peu l'objectif derrière ce sujet de maîtrise.
Effectivement. En fait, moi, je veux... mon objectif, c'est d'aller chercher les expériences positives que la clientèle autiste peut vivre relativement à leur sexualité,
ouais.
puis de les mettre de l'avant afin de voir comment on peut potentialiser ces expériences-là en tenant compte du réseau de la personne autiste.
Et maximiser le potentiel de ces jeunes-là aussi.
Effectivement.
Qui ont beaucoup à apporter à notre société. Émilie Robitaille, vous êtes infirmière, candidate à la maîtrise en sciences infirmières et également consultante pour le défi sportif Altergo. De bonnes chances dans vos études, Émilie.
Merci beaucoup.
Ça a été
un plaisir.
Au revoir.
Au revoir.